Cruel et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Bienvenue dans Truel et Sac à dos. Alors, je suis sur Nbon et donc aujourd'hui, je suis à la rencontre de Pierre-Laurent Constantin et ma question de démarrage qui est toujours la même. Mais qui êtes-vous, Pierre-Laurent ?
Alors, je suis médiateur du patrimoine au sein de la ville d'Ennebon, donc dans le Morbihan. On est très content d'accueillir le Finistère en Morbihan Sud. J'occupe un poste qui, au sein du service valorisation du patrimoine, qui dépend lui-même de la culture. Donc, je suis un agent territorial. Et ma mission, est, ouais, c'est ça, vrai, je ne sais pas, mais oui, enfin oui, comment dirais-je, avec le concours. Et voilà, j'ai en charge, et bien, pour faire rapide, la conservation et l'entretien du patrimoine public, donc de la ville, et tout le travail de valorisation. Voilà, c'est deux grands pôles de ma mission.
D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours, justement, parce qu'on vient de dire que tu étais titulaire. Et donc, comment tu as pu arriver à ce poste-là et puis ce qui s'est passé avant?
Alors, bon, ce qui s'est passé avant, c'est somme toute quelque chose d'assez classique, hein, puisque j'ai fait des études d'histoire. Alors, je suis angevin, donc j'ai travaillé à l'époque sur les vitraux de la cathédrale d'Angers. Et puis, j'ai été amené à faire visiter des édifices religieux en Bretagne, à travailler beaucoup en Bretagne. Et puis, je m'y suis installé. J'ai eu la chance de travailler, de bénéficier de ce qu'on appelait à l'époque les emplois jeunes, c'est-à-dire les aides qui étaient données à certaines associations. Et donc j'ai travaillé sur le pays de Pontivy au sein de l'association L'Art dans les Chapelles, qui faisait se rencontrer l'art contemporain et le patrimoine religieux. Donc ce sont deux pôles qui m'intéressent. Et puis surtout ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de montrer que le patrimoine ne s'arrête pas à un moment et que l'art contemporain ne commence pas forcément à un moment. Ce sont deux choses qui se lient ensemble et qui peuvent tout à fait se parler, puisque au XVIe siècle, l'art du XVIe siècle, il était contemporain du XVIe siècle. Donc on a ce mécanisme-là qui m'intéressait beaucoup, de voir comment ces choses peuvent échanger. Et puis, comme on l'a dit, j'ai passé les concours de la fonction publique et puis je suis arrivé à Ennebon. Et ça fait depuis 2006, donc ça fait 15 ans maintenant, que je travaille sur la ville.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton rôle en détail? Moi, j'aime bien aussi connaître un peu la vie quotidienne du médiateur du patrimoine. Si on prenait une journée type, comment ça marche?
Alors oui, il y a une formule que j'aime bien. Dans le Morbihan, on a une très ancienne société savante qui s'appelle la Société Polymathique du Morbihan. Et moi, j'aime bien ce nom de polymath, c'est-à-dire qu'on fait plein de choses, différentes. Une journée type, c'est assez difficile à dire, mais rapidement, moi, mes missions, c'est, je vous l'ai dit, tout le suivi de l'entretien, de la conservation du patrimoine de la ville. Évidemment, je ne fais pas ça tout seul, hein. Je travaille avec les services techniques, avec la direction de la culture, parfois même avec la médiathèque. Enfin, je ne suis pas du tout seul dans mon coin. Les grands projets, c'est effectivement tout le suivi d'entretien, restauration du patrimoine, comme peuvent être la basilique. Là, on sort d'un plan patrimoine, d'un plan pluriannuel qui a été mis en place pour la restauration du cœur de la basilique. Avant, il y a eu un plan patrimoine numéro 1 et on travaille à un plan patrimoine numéro 3. Ça peut être des petites questions d'entretien, de petites interventions à faire sur un monument, de nettoyage, etc. Donc ça, c'est le volet conservation. Et puis à côté, le volet médiation, qui consiste à mettre en place, organiser des visites, des ateliers avec les scolaires. Depuis, évidemment, cette ambiance un peu particulière du confinement, il y a aussi tout un développement de médiation à travers le numérique, on pourrait dire. Donc à travers, que ce soit les pages sur les réseaux sociaux que le service patrimoine utilise, qui nous permettent de montrer des lieux, de donner des explications, de montrer des évolutions. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait tout un travail de dessin pour tenter de restituer nos 4 maisons à pans de bois. On n'en a plus que 4, puisque la ville d'Ennebon en fait, a été détruite à 98%. En août 1944, donc on n'a plus que 4 maisons, et c'était intéressant d'essayer de deviner sous les enduits ce à quoi elles pouvaient ressembler. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait et qu'on peut proposer par internet, donc ça c'est intéressant d'utiliser les réseaux pour développer ces éléments-là. Et puis on a aussi mis en place, que ce soit des podcasts, version sonore, mais aussi avec enfin, j'allais dire grâce, oui, grâce ou à cause du confinement, on a mis en place une chaîne YouTube qui eh bien, aborde différents points de l'histoire, du patrimoine, les personnages historiques de la ville d'Ennevron.
Alors, cette idée de la chaîne YouTube, elle est venue, oui, suite à l'histoire du confinement ou c'était quand même peut-être réfléchi avant ?
Il y a deux choses. Bien avant, il y avait la dimension de podcast, c'est-à-dire de choses sonores. Moi, j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup les podcasts, j'aime beaucoup cette question du son qui permet de faire deviner des choses sans forcément les voir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, il y avait des podcasts qui existaient depuis assez longtemps. Et puis, effectivement, il y a le confinement. Puisque d'être un peu coincé chez soi en se disant bah voilà, comment je peux continuer à parler de l'histoire de la ville, du patrimoine de la ville, bah, il y a eu ça qui s'est mis en place. Et puis c'est aussi une autre réflexion, c'est que dans le cadre de la fréquentation d'étudiants, puisque je donne quelques cours, et puis d'ados que je peux avoir près de chez moi et autour de moi, je me suis rendu compte qu'ils avaient un autre volet d'acquisition de connaissances que nous, les vieux, on n'a pas, nous, on est sur les livres, on est sur la documentation écrite, même quand on est sur Internet, on va apprendre le PDF qu'on va imprimer pour le lire. On a toute une frange d'un jeune public qui se documente énormément à travers les chaînes et les vidéos. Alors, il y a du très mauvais, mais il y a aussi du très très bon. Et de là, je me suis dit, mais c'est peut-être un volet pour pouvoir effectivement attirer un autre type de public. Ça a aussi l'avantage de montrer aussi les choses. C'est-à-dire qu'une vidéo avec des images, on peut montrer ce que l'on fait.
Il y a la chaîne YouTube où là, c'est toi qui prends la parole et qui propose des sujets. Et il y a le podcast avec Clio où là, c'est d'autres voix aussi qui peuvent se prêter au jeu. Quoi.
Le podcast, il y a deux choses dans le podcast. Il y a les balades racontées. Qui sont, on va dire, une visite commentée où effectivement c'est moi qui parle et puis qui fait visiter la ville ou un lieu. La question de Clio, c'est une autre idée qu'on avait eue. J'avais sous la main une petite fille de 10 ans et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas l'utiliser ? Et l'idée était de faire quelque chose de sonore à destination du jeune public et qui soit entre guillemets à leur échelle. C'est-à-dire, voilà, quelles questions un enfant de 10 ans peut se poser quand il se promène dans Ennevron. Et l'autre défi que j'avais, c'était de pouvoir lui répondre en moins de 2 minutes, pour avoir quelque chose qui soit assez rapide en termes de présentation. Alors, il faut être honnête, certaines réponses sont un peu plus longues que 2 minutes, et dans certaines réponses, il y a peut-être des choses qui sont un peu complexes pour un enfant de 10 ans. Mais bon, c'est pas grave. Le principe était...
d'avoir une transmission.
Une transmission, et puis paradoxalement aussi, pas que par le jeune public. Parce que Ennevron, que veut dire ce nom ? C'est une question qu'on se pose de 7 à 99 ans. Mais là, c'était aussi une façon de rentrer par ce biais-là. C'est aussi l'occasion peut-être de décomplir certains adultes. Hein, le nombre de fois où en visite, j'ai une question à vous poser, mais c'est peut-être une question bête. Je pars du principe que non, il n'y a pas de question bête. C'est ça qu'il y a des gens qui disent, pourquoi ça s'appelle Ennevron ? Ou quand est-ce que la première fois on entend parler d'Ennevron ? Donc, question qui semble naïve, que les gens n'osent pas trop poser. Je me dis, mais là, c'est l'occasion de prendre le biais et d'utiliser cette petite voix pour pouvoir faire ça. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée du podcast Clio.
Et alors après, est-ce que tu as d'autres expériences ou d'autres actions qui sont menées justement sur la ville dont toi tu pourrais nous parler ? Parce que là, c'est la partie avec le volet numérique, avec la chaîne YouTube, le podcast, enfin les podcasts parce qu'il y a les deux. Est-ce qu'il y a d'autres actions donc, qui sont menées ou qui sont réitérées ?
Alors en matière de valorisation, oui. Alors, après c'est pareil, on n'invente jamais l'eau chaude. Hein. Il y a effectivement tous des cycles de visites, puisqu'on a mis en place depuis maintenant, ça doit faire une douzaine d'années, les dimanches du patrimoine et les croques patrimoine. Donc les dimanches, c'est un dimanche après-midi, tous les 2 mois, on est sur un thème. Ça peut être l'art roman, l'art gothique à Ennevron, on voit de lieu. Ça peut être l'évolution de l'enceinte urbaine. Ça peut être les hôtels particuliers. Et on a ce qu'on appelait les croques patrimoine, parce que ça a lieu le midi. Là, c'est pareil, c'est tous les 2 mois, hein, les uns alternent. Le prochain, c'est en février. Ça va être février, avril. Enfin voilà, ça saute de mois. Et là, c'est une rencontre sur le temps de midi qui dure une quarantaine de minutes et qui a un avantage, c'est qu'elle permet d'aborder un petit point, un petit objet. Si par exemple j'ai envie de parler d'un calice ou juste d'une statue ou juste d'une particularité architecturale, c'est un format qui est beaucoup plus pratique parce qu'il est à peu près court et après ramassé. Je ne vais pas pouvoir faire 3 heures, si on prend l'exemple, sur un calice. Ça me semble difficile dans le cadre d'une visite de 3 heures d'avoir avec moi le calice sous le bras ou de le sortir. Donc ouais. Voilà, ça permet de faire
ça
des choses.
Ça donne rendez-vous aux personnes pour découvrir l'objet avec toi.
Quoi. Exactement. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment assez simples. Et puis à côté, il y a toutes les participations possibles qui peuvent être faites aux colloques, aux journées scientifiques, à la publication d'articles dans des revues. Donc un travail de recherche aussi, parce que ce travail de recherche, il nourrit la connaissance de la ville, il nourrit les actions de médiation et il peut aussi nourrir les actions de conservation. De même, le travail de conservation qui va être fait, restauration de la basilique, restauration de la maison des confesseurs, entraîne un travail de recherche. Donc tout se nourrit l'un, ouais, tout se lit, tout se nourrit l'un avec l'autre. Et une des idées est aussi de produire de la connaissance sur la ville d'Edmond. Alors il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, hein, puisqu'on a une archiviste et puis un ancien archiviste qui a énormément travaillé sur la ville. On a une association dynamique qui valorise la connaissance de la ville en faisant des articles et des recherches. Mais c'est une dimension supérieure qui, je pense, est vraiment, vraiment importante. Placer Edmond sur la carte du patrimoine.
Oui.
Voilà comment ça marche.
Et toi, dans tout ça, est-ce que tu as la volonté de continuer, parce que c'est ce que tu disais, le côté polymathe qu'on a tous, je pense, en médiation du patrimoine au final, mais est-ce que tu as des formations particulières ou une envie particulière pour les années à venir où tu aimerais bien creuser
Le problème, c'est que chaque fois que j'entends parler de quelque chose, je me dis « Ah tiens, je ferais bien ça !» Donc c'est ça, c'est polymathe, c'est un peu le problème, c'est qu'on fait plein de choses et puis... je trouve que le développement du regard archéologique porté sur la ville, c'est un élément qui est assez récent, parce qu'on a la chance d'avoir aussi un élu au patrimoine qui est sensibilisé à ces questions-là, ayant lui-même pratiqué l'archéologie. Et on a des élus qui sont de plus en plus sensibles à cette question-là, qui, on le sait, n'est pas forcément évidente à l'échelle d'une commune, pour plusieurs raisons, parce que souvent l'archéologie fait peur. On part du principe que ça va retarder le chantier, on va creuser partout, etc. Donc ce travail d'expliquer que l'avantage de l'archéologie, c'est qu'elle détruit son objet d'étude. Et c'est qu'a priori, une fois qu'on a fait une fouille ou quelque chose, l'espace est dégagé pour pouvoir construire ce qu'on veut construire. Et on a en plus engrangé de la connaissance, ce qui fait qu'on a, on n'en a pas perdu au final, parce que c'est assez rare. Enfin, je ne pense pas qu'à Edmond, là, on découvre demain une domus romaine ou un quartier médiéval complet avec tout ce qu'il y a dedans. Enfin, on n'a pas de nouveau Pompéi ici. Mais c'est quand même intéressant de construire cet élément-là. Donc moi, ce volet archéologique m'intéresse assez. Et puis, il y a autre chose qui est en lien avec le site patrimonial remarquable de la ville, c'est qu'on continue à travailler aussi sur la connaissance de l'évolution architecturale de la ville. Depuis quelques années, ça émerge la prise en compte aussi de l'architecture du XXe siècle. Edmond est une ville reconstruite. Je dis souvent en riant un peu qu'à Edmond, il y a deux traumatismes. Le premier, c'est que l'Orient a volé la vedette après la Révolution française. Voilà, ça c'est clair, c'est que l'Orient est devenu la ville-centre, ce qui était Edmond avant la Révolution et encore plus évidemment avant que l'Orient n'existe. Et le deuxième traumatisme, c'est l'incendie qui suit les destructions du 7 août 1944, qui fait que 98% du centre-ville disparaît dans les flammes. Quand on regarde les cartes postales aujourd'hui, c'est une ville complètement incroyable. On a des ponts de bois partout, enfin, elle est à l'égal de ce qu'on peut trouver à Vannes, à Quimper, etc. Et qu'on a donc cette ville reconstruite, et qui dans l'esprit de beaucoup est une ville mal faite, vite faite, moche. Voilà. Et je pense que c'est pas vrai, du moins c'est pas complètement vrai. Il y a des éléments de cette reconstruction qui sont extrêmement intéressants. Quand on regarde un peu, il y a des choix qui ont été faits par Paul Lindu, qui est l'architecte urbanisme à qui le ministère avait confié la reconstruction, et les architectes avec qui il a travaillé, qui sont assez intéressantes. Il y a un quartier qui a entièrement disparu, qui était celui devant la porte médiévale, qui est aujourd'hui une place. Et comme par hasard, il n'a pas été reconstruit. Et Paul Lindu a créé un lien visuel entre la porte Proérec et la basilique, les deux pôles majeurs du patrimoine de la ville. Une façon de dire, la ville a disparu dans les flammes, mais moi je crée un lien visuel entre les deux. Il a reconstruit un bâtiment, un très très grand bâtiment, une série d'immeubles, sur cette place-là, et si on regarde bien le décor et l'utilisation sur cet immeuble, on a des lucarnes qui sont très 18e, on a un jeu avec des bandeaux à chaque étage qui évoquent les hôtels particuliers du 18e, on a des espèces de fausses clés de voûte sur les fenêtres. Il joue vraiment avec un vocabulaire edmontais, ou même peut-être breton largement.
Ouais, c'est ça, il a mélangé les
périodes. Il a mélangé.
Alors, aussi,
voilà, c'est ça. Lectures. Donc, il a quand même regardé la ville. Il a quand même lu la ville. Évidemment, il a lu la ville à sa hauteur des années 50 et bientôt 60, qui est on veut faire venir la voiture, on veut des grands espaces, on veut de l'air, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir vouloir faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais il n'a pas fait. Alors, certes, on a des immeubles blancs un peu bêtes, en béton, etc., qui ne sont pas forcément excitants, mais on a à côté des choses très intéressantes. Et puis, on a aussi beaucoup de choses, c'est dans l'habitat individuel. Hennebeau a beaucoup de maisons des années 30. Avec encore, alors je croise les doigts pour qu'on les garde, des portes, des fenêtres, des portails, des bordures qui sont encore à l'état d'origine et qui souvent ont tendance un peu à passer à l'as, parce que c'est vrai que quand on est dans une ville historique à fort sur construite, on se dit « waouh, les années 50 c'est moche et on a tout perdu, donc on n'a plus rien ». Or non, on a conservé, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais je crois peut-être une quinzaine d'hôtels particuliers entre le 16e et le 19e, c'est quand même pas rien. On en a un d'ailleurs, c'est très intéressant. La façade est 1586 et tout l'arrière, c'est une maison des années 60, puisqu'on a conservé. Et ça, je trouve que c'est un beau symbole d'avoir rassemblé ces deux-là.
C'est beaucoup. Un peu comme les fermes bretonnes où tu as la ferme du 15e et puis. Tu retrouves la néo-bretonne.
C'est ça, voilà. Et moi, je pense que...
19e au milieu.
Et c'est ça, et on reprend de l'autre côté. Ou alors sur la butte, il y a une photo de l'inventaire qui est célèbre, on voit la ferme, et dans le fond, on a la néo-bretonne sur la butte. Et là, encore une fois, moi, je ne me positionne pas sur le plan esthétique, même si ça joue, mais vraiment sur le plan de l'intérêt. Pour une néo-bretonne, c'est hyper intéressant. Pourquoi, au bout d'un moment, dans ces années-là, 60-70, on essayait de faire une... Qu'est-ce que ça veut dire de faire une fausse maison bretonne qui ne l'est pas, mais qui en même temps a les choses modernes qu'on veut à l'époque. Il y a des choses intéressantes aussi quand une des réactions, quand on voit les bâtiments des années 50, c'est « Ah ouais, mais c'est quand même moche par rapport à ce qu'il y avait avant ». Sauf qu'il faut oublier un truc, c'est que les gens qui vivaient dans les hôtels, les maisons à pans de bois 16e d'Hennebon avant-guerre, c'est les maisons avec l'isolation brinque-ballante, avec des escaliers pas droits, avec pas de commodité. Et ces gens, après les années 50, après le passage de transition dans les baraques, ça c'est un sujet très important aussi, ils se retrouvent dans des appartements lumineux, avec des balcons, avec de la lumière, avec du parquet, d'électricité, avec les cuisines et salles de bain rejetées sur la partie arrière et toute la partie de vie sur la ville. Donc c'est... Voilà, moi j'ai un truc... C'est un peu violent de dire ça, mais moi j'aime pas la nostalgie ou le c'était mieux avant. Les choses sont comme elles sont. Et le seul devoir qu'on a, c'est de faire tout pour pas les massacrer. Voilà.
Oui, ou transmettre en tout cas de cette connaissance qu'il y a pu y avoir à un moment donné de cette architecture ou de cette histoire rattachée.
Exactement.
À cette vie-là, voilà. À ce moment-là.
À ce moment-là.
Nous, on continue de
vivre. On continue aussi, de vivre. Et de la même façon, déjà, qui je suis pour l'être, mais si on me demande mon avis, moi je suis pas opposé à ce qu'on modernise. Après, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'on a une très belle longère. On ne va pas éventrer la façade pour mettre une grande baie vitrée. Par contre, on peut peut-être penser, c'est est-ce que derrière, on ne peut pas rajouter un corps de bâtiment où on fait cette baie vitrée, où on fait une cuisine, et qu'on conserve quand même ce qui fait
le bâti,
qui fait son intérêt, et puis ce qui nous parle du temps passé et de ce pourquoi elle est là. Parce que si au bout d'un moment... On détruit une porte des années 30, on écarte les fenêtres, on met des baies vitrées, elle nous dit plus rien, elle veut plus rien dire. Alors bon, c'est peut-être pas grave, mais je trouve que c'est dommage quand même, parce qu'on perd quelque chose.
On perd dans son histoire, quoi. Et alors justement, avec tout ça, pour toi, c'est quoi cette médiation en archéologie? Comment elle prend forme? Comment elle se...
Alors curieusement, l'archéologie a une grande importance. Alors peut-être parce que je ne suis pas archéologue et que je suis frustré. Moi, j'ai fait partie de cette génération où quand on voulait faire de l'archéologie, parce que moi, je fais partie, il y en a un de cette catégorie qui, à part 7-8 ans, voulait être archéologue. Et puis à qui on a dit, non, mais il faut être sérieux, hein, faut faire un vrai travail, l'archéologie...
Moi, j'en fais partie, du coup, j'ai dit que je voulais faire vétérinaire.
Ben voilà, c'est ça.
C'était plus vendeur.
Et c'était plus vendeur. Oui. Mais où c'est vrai qu'effectivement, cette question de l'archéologie, en plus... Ça commençait à émerger dans les années 80, 90, mais l'idée qu'on avait, c'était « Ah oui, archéologue, tu veux être égyptologue
oui, ».
Voilà, la question de l'archéologie en local, elle n'était pas encore développée comme elle l'est maintenant. Donc, je n'ai pas fait d'archéologie. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup dans la question archéologique, c'est cette façon d'aborder un bâtiment ou un objet. C'est-à-dire cette question de strates, cette question de temps qui passe, cette question d'état qui change, de si on retire couche par couche, au bout d'un moment, à quoi on arrive. Par quoi est passé un bâtiment. J'aime beaucoup l'archéologie du bâti, je trouve que c'est intéressant de regarder, d'essayer de deviner, tiens, les pierres ont bougé, tiens, là on peut deviner, et c'est incroyable, même moi, n'étant pas du tout archéologue, et je ne prétends pas, d'arriver à voir, ah tiens, effectivement, là, on distingue qu'il y avait peut-être un escalier. Tiens, cette fenêtre-là, c'est peut-être une porte. Ça, c'est des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Donc, l'archéologie m'intéresse beaucoup là-dessus. Et puis, en plus, elle, il y a, sans doute parce que je ne suis pas du tout comme ça, elle contraint une certaine rigueur. Elle oblige à faire étape par étape et à poser un regard vraiment scientifique au lieu de partir sur des élucubrations. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant.
Et je creuse pour trouver le trésor.
C'est ça. Et je massacre tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, moi, donc la médiation en archéologie, elle est importante dans le sens où c'est faire comprendre effectivement comment on procède quand on travaille la matière historique, même en général. Sur Hennebon, en médiation en archéologie, on a plusieurs petits ateliers. Hein, celui qu'on fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'atelier archéomome. Je devrais déposer le nom à l'INPI parce qu'un jour, on va me le piquer. l'archéomome, c'est-à-dire on propose, alors c'est encore une fois, hein, je rassure tout le monde, on n'invente pas l'eau chaude, hein, de travailler sur un bac de fouilles. Donc on fait fouiller les enfants dans un grand bac, la terre. Alors ils ont un casque, ils ont une truelle, ils ont un pinceau. Et d'ailleurs c'est amusant parce que quand j'ai commencé à réfléchir à cet atelier-là, au début j'ai cherché des casques enjoués, des truelles enjouées, des seaux enjoués. Puis un jour je me suis dit mais non. Et donc j'étais dans un magasin de bricolage, et ils ont des vraies truelles, des vrais pinceaux. Alors c'est drôle parce qu'ils sont assez fascinés, ils ont un casque. Le casque évidemment sur les chantiers d'archéo, à part en hauteur, il n'y a pas souvent de casque. Mais c'était vraiment pour les mettre... dans une espèce d'ambiance, là, hop là, oula, on a un casque, on doit suivre les choses. On fait attention.
On est en sécurité.
Voilà, on est en sécurité. Et, c'est une pratique qui ne se fait pas comme ça.
Ça met une rigueur, comme tu disais tout à l'heure.
Ça impose d'avoir... Et puis d'avoir des vrais outils.
Une démarche, ouais.
Voilà, d'avoir des vrais outils. C'est-à-dire que... on n'est pas... Enfin, si, on est là pour jouer, mais pas vraiment. Et ils fouillent. Et là où, entre guillemets... Alors, je sais que j'aurais plein de discussions à avoir avec les médiateurs en archéologie. Le choix qui a été fait, c'est de ne pas mettre de facsimilés ou de faux objets dans le bac. Parce que tout simplement, ce bac, il se déplace. Et que ça m'aurait semblé dérangeant, au milieu de la cour, de leur faire fouiller un bac en leur faisant croire qu'il y avait probablement une maison médiévale ou quelque chose comme ça. Donc, eh ben, ils ont des choses toutes bêtes, que des rasoirs, des brosses à dents, une balle de ping-pong, une balle de tennis, des clés, des pièces... Par contre, ils doivent faire tous les gestes. On dégage proprement. Quand on a un objet, on le localise, où on est dans la parcelle, enfin dans son carré, où on est par rapport aux autres, on note, on analyse l'objet. Alors ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que, bah non, vous dites pas, c'est une brosse à dents. C'est un objet long, avec des ordres de poils au bout. À quoi il peut servir, on fait des hypothèses. Mais bon, ça, c'est plutôt intéressant à faire. Voilà, donc ils extraient ces objets-là. Et après, on a un travail de post-fouille. C'est-à-dire, bah alors toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Bah moi, j'ai trouvé, généralement, ils aiment bien ça, hein, parce qu'il y en a un qui voulait repartir avec, un couvercle de camembert écrasé, une boîte de camembert écrasé. Ah bah tiens, c'est marrant, moi j'ai un sachet de thé. Ah, moi j'ai une cuillère et une assiette. On dirait, c'est les objets de la cuisine. Ah, vous fouillez une cuisine. Et ainsi de suite, ils reconstituent. Et quand on pousse, une fois qu'on a tout fait, on l'a fait en classe, on le fait régulièrement, c'est bah, est-ce qu'on peut savoir qui habite dedans? Combien de personnes? Quel âge ils peuvent avoir? Il y a des jeux qui sont dedans. Donc des fois je vois, ah bah tiens, oui, ça c'est des jouets de bébé, ma petite sœur a la même. Ah, ta petite sœur a quel âge? Bah alors peut-être qu'il y a... Ah oui, mais moi j'ai trouvé un petit pot ou une tétine. Ah tiens, voilà, c'est un peu de fonctionner comme ça. Donc c'est des choses qui sont assez simples et assez basiques, mais qui fonctionnent plutôt bien.
Ouais, pour qu'ils comprennent comment on s'organise, comment ça marche, de découvrir la vie d'avant. Quoi.
C'est ça. Et puis surtout que l'interaction se fait entre ce que moi j'ai trouvé, ce qu'a trouvé mon voisin ou l'autre, ah, il y a un lien. Et que ces objets-là, ils fonctionnent aussi avec un contexte qui est plus général. Et là, tu vas me voir arriver un petit coup de pied à nos amis les détectoristes qui font bip bip bip, qui trouvent quelque chose, qui creusent, qui sortent un objet en détruisant tout l'espace qui est autour. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est exactement comme si vous aviez un livre et puis vous trouviez une page sympa, bah, vous arrachez la page et vous partez avec. Et ben, le livre, il perd son intérêt, on ne sait plus ce qu'il fait. Donc là, l'idée est aussi de leur dire ça. Et en plus, je pense que le fait de fouiller, d'avoir des objets qui sont entre guillemets des ordures, enfin des déchets, casse aussi cet effet un peu trésor. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un trésor, non, on cherche un artefact, un objet qui nous dit des choses. On ne va pas trouver quelque chose de beau. Alors, ce qui est drôle, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Ils basculent sur la dimension un peu de trésor, puisque, je vous dis, ils veulent repartir avec leur sachet, avec leur bout de sucette tordu, parce qu'ils l'ont trouvé. Et... Mais c'est intéressant, parce que ça montre sur cet objet qui devient autre chose.
Et puis il y a la relation à l'objet, justement, et eux, la connaissance qu'ils peuvent en avoir, l'expérience liée à ça, et ce que tu disais, quoi, l'échange qu'ils vont avoir entre eux, que nous, on retrouve après en archéo, où on se passe l'info d'un chantier à l'autre, des objets qu'on a pu trouver, qui sont des artefacts parfois complètement mystérieux, et où tout à coup, on se rend compte de « mais oui, c'était donc ça !» Et parce qu'il y a eu cette connaissance...
Parce qu'il y a tout ce faisceau de connaissances, c'est ça. Voilà, c'est et tout ça. Ce faisceau qui se fait entre différents lieux. Donc voilà, donc, c'est ce qu'on essaie de toucher hein, modestement hein, avec le jeune public, mais ça marche plutôt bien. Et les retours qu'on a quand on échange avec eux, moi, je trouve sont assez intéressants. Alors, pour l'anecdote, il y en a une que j'aime beaucoup. Hein, c'est un jour, on était en classe, c'était CM2, et il y en a un qui nous dit « mais moi, de toute façon, je pense qu'ils avaient une caravane. » Alors là, tout le monde s'arrête. On regarde les objets, on essaie de comprendre ce qu'il voulait dire. Et on dit, mais pourquoi ? Et il dit, parce que j'ai trouvé une balle de tennis. Alors là, on trouve ça encore plus obscur. Et on dit, mais comment ? Il dit, si, parce que la balle de tennis, on la met sur la boule qui traîne la caravane. Donc ça, c'était rigolo, parce que ça devait sans doute lier à du vécu qu'il avait. Il est peut-être parti trop loin.
Ça,
mais au moins, il avait réussi à faire une espèce de lien à partir d'un objet, d'un contexte, de quelque chose qu'il connaissait. Et ça, c'était intéressant aussi comme mécanisme.
Oui, c'est ça, ça apporte encore une autre connaissance sur l'objet.
C'est ça, sur l'objet.
Et pour réaliser justement ces actions, est-ce qu'il y a des acteurs en particulier avec qui tu travailles en termes de contenu ou de financement aussi d'ailleurs ?
Alors, les acteurs principaux, c'est les acteurs qui sont ceux de la ville. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour les bacs de fouilles, je fais appel à mes collègues des services techniques qui viennent poser le bac et puis après qui viennent remplir de terre et qui m'aident à passer le balai. Ça a changé parce qu'il y a eu une année où j'ai eu un coup de fil en disant « c'est bon, ton bac est prêt ». Et en fait, j'étais arrivé, j'avais le bac, un énorme tas de terre avec une pelle plantée dedans, donc j'avais tout chargé. Maintenant, ils viennent avec les mini-pelles et ils me font ça nickel, etc. Donc c'est surtout en local. Au sein du service, les financements, il n'y en a pas tant que ça parce que ce sont des choses qui sont en fait à minima
de personnel et de matériaux.
Après je pense que c'est aussi une conséquence aussi de ma formation. Moi, j'ai commencé à travailler en association, il y avait très peu de moyens, donc on faisait tout avec l'huile de coude et de l'imagination. Bon, je dis pas que je veux que ça continue comme ça, mais voilà, on essaie effectivement de trouver des...
Et puis de manière générale, enfin, les expériences que je peux avoir et puis des personnes avec qui j'ai pu échanger, on en est tous.
C'est ça,
c'est notre façon de faire.
Et puis je pense que ce qu'on aime bien tous, pour en discuter avec mes collègues médiateurs, c'est qu'aussi d'une certaine façon, on maîtrise aussi un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'on crée, et puis surtout, souvent ça part d'une idée qu'on a soi en tête et qu'on veut rendre concrète. Donc, entre guillemets, il n'y a presque que nous qui pouvons...
Oui, on ne peut pas aller dans un magasin chercher
exactement.
La formule toute faite avec
c'est ça.
L'objet.
L'objet, il faut le faire. Alors, ça prend du temps, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est assez aussi gratifiant de dire, bon voilà, on a réussi à faire les choses.
Et alors, quels seraient tes souhaits à venir pour 2022 ? Parce qu'on en a le droit, c'est,
ouais, c'est
on
ça.
En janvier.
Mes souhaits à 2022, qu'est-ce que ça pourrait être, mes souhaits pour 2022 ? J'ai tellement de trucs.
C'est ça.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on souhaite de bien à Enbon et à la médiation ?
Ah, qu'on continue à pouvoir travailler, à découvrir des choses. Après, en matière de médiation, ce que j'espère, c'est pouvoir renouer, entre guillemets, avec le public, même si les visites se font dans le respect des mesures sanitaires.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un temps d'échange qui est vraiment super. Donc ça, je pense que c'est bien. Et puis j'ai une pensée aussi pour tous les étudiants que je côtoie, qui veulent rentrer dans ces métiers-là. Et alors c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ils sont beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de postes. Donc il y a une espèce de goulet, une espèce d'entonnoir. Je pense qu'il y a des choses quand même qui se développent. Et puis c'est toujours bien de voir justement un regard nouveau, un regard jeune.
Bon, eh bien merci beaucoup.
En tout cas.
Pierre-Laurent, nous avoir reçus. Donc c'est le centre socioculturel.
Oui, on est au centre socioculturel. Là, on est, pour pouvoir enregistrer, on s'est mis dans l'atelier. Donc on est un peu...
On est dans la cave.
C'est ça.
Donc voilà. On est voilà, dans l'antre.
Exactement.
Dans le patrimoine.
Avec des maquettes, avec des casques, avec des pots en métal. Enfin voilà, tout est là. Voilà.
Donc on se retrouve sur Radio Évasion, nous tous les mercredis de toute façon. Moi je vais continuer d'emmener mon sac un peu partout pendant cette année 2022. Bientôt je vais vous parler de musée à roulettes, je vais vous parler aussi d'applications parce qu'on a parlé un peu de numérique aujourd'hui, donc je vais continuer d'en parler aussi. Et puis j'ai d'autres petites choses qui sont rentrées dans mon sac dernièrement, donc merci Pierre-Laurent.
De rien.
Pour conclure, cette fois, je vais faire court, car avec Pierre-Laurent, nous avons été très bavards. Je vous ai gardé un maximum de notre échange au montage. À retenir tout de même, le prochain Croque Patrimoine, le mardi 15 février. Et je vous invite à faire un tour sur la chaîne YouTube du service patrimoine de la ville d'Embon. Vous y découvrirez Pierre Laurent et toutes sortes d'informations sur l'histoire de cette ville pas si moche. À bientôt.